Frédéric Couteau est là, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Avec vous, la revue de presse. Donc, elle a une le Brexit. Est-on au bout du tunnel ?
À 2 semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, toujours programmée pour le 31 octobre, un deal semblait à portée de main hier, en début de soirée, rapporte le Figaro. Je veux croire qu'un accord est sur le point d'être finalisé et qu'il pourra être avalisé jeudi, se réjouissait Emmanuel Macron, alors que plusieurs points n'étaient pas encore totalement stabilisés. Nous sommes dans les derniers mètres de la négociation, se félicitait Angela Merkel depuis Toulouse, avec le président français à ses côtés, mais un peu plus tard, poursuit le Figaro, Londres faisait savoir qu'il n'y aurait aucune annonce dans la soirée. Et le négociateur en chef de l'Union, Michel Barnier, renonçait à la conférence de presse envisagée quelques heures plus tôt. Les discussions devaient se poursuivre, pointe encore le journal, car l'objectif est d'aboutir avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui débute ce jeudi après-midi à Bruxelles pour laisser suffisamment de temps aux diplomates des États membres de prendre connaissance de l'épais accord de retrait remanié.
Alors on est au pied du mur, s'exclame Libération.
Oui, tout ce cirque et ces palinodies auxquels on assiste depuis le 23 juin 2016, ce jour funeste où les Britanniques ont voté majoritairement pour la sortie de l'Union européenne, tout ce cirque et ces palinodies donc ont assez duré. Mieux vaudrait que les deux parties se séparent en bons termes, c'est-à-dire avec un accord. Hier soir, donc, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union, et jusqu'à Emmanuel Macron, laissait planer un espoir d'y arriver, pointe également Libération. Le sérieux avec lequel ces derniers jours Boris Johnson a semblé considérer ce possible accord montre qu'il a peut-être pris la mesure, dans la dernière ligne droite et au pied du mur, de la folie qu'il y avait à franchir cet ultime obstacle sans filet. Et pourtant, s'il y a un homme irresponsable, c'est bien lui, soupire Libération. Si tout va bien, donc, le Royaume-Uni et le continent européen pourraient se séparer à l'amiable aux environs de la fête d'Halloween et du jour des morts. Si tout va mal, ces deux célébrations seront encore plus d'actualité.
En tout cas, si deal il y a, il sera subtil, relève la Croix.
En effet, les Européens tentent de concilier deux objectifs contradictoires, établir des contrôles rigoureux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et éviter qu'une frontière physique n'apparaisse entre la République d'Irlande, membre de l'Union, et la province britannique d'Irlande du Nord. D'un côté, il s'agit de protéger l'efficacité du marché unique européen. Il ne peut y avoir de libre-échange et de libre circulation au sein de l'Union s'il n'y a pas des contrôles sûrs à ses frontières pour éviter, par exemple, l'importation de bœuf aux hormones américains ou encore de jouets chinois aux normes de sécurité mal définies. Et de l'autre côté, les États de l'Union se montrent solidaires de l'Irlande, qui redoute une reprise des troubles entre républicains, catholiques et unionistes protestants si l'île est à nouveau divisée. Comment les Européens et les Britanniques peuvent concilier ces deux objectifs ? Eh bien, c'est tout l'objet des ultimes tractations.
Reste que trouver un accord ne suffit pas, remarque l'Alsace.
Et oui, encore faut-il qu'il soit ratifié outre-Manche. L'Alsace qui rappelle que le précédent accord sous le gouvernement de Theresa May avait déjà été rejeté 3 fois par le Parlement britannique. En effet, complète Libération, si un accord de sortie est confirmé par les chefs d'État et de gouvernement ce jeudi à Bruxelles, le Premier ministre Boris Johnson devra sortir le grand jeu samedi à Westminster. Sa rhétorique et sa capacité à convaincre et susciter la confiance seront testées au plus haut point, puisqu'à la tête d'un gouvernement minoritaire, il lui faudra convaincre suffisamment de députés de soutenir ce nouvel accord de sortie. En tout cas, signe d'un certain ras-le-bol chez nos voisins anglais, rapporte le Figaro. Le groupe de télévision Sky a annoncé hier lancer une nouvelle chaîne d'information qui couvrira toute l'actualité, toute, sauf le Brexit.
On revient, Frédéric, à Libération qui s'attarde ce matin aussi sur la grâce accordée hier par le roi Mohamed VI du Maroc à la journaliste Aja Raissouni.
Le sort de cette jeune femme de 28 ans, condamnée à 1 an de prison pour un avortement illégal qu'elle a toujours nié, avait suscité une vive émotion dans son pays. Mohamed VI a finalement donc décidé de la libérer, tout comme son mari et les médecins accusés dans l'affaire. Reste, poursuit Libération, qu'il s'agit là d'une victoire amère pour les féministes et les militants pro-démocratie. Les articles 449 à 458 du code pénal marocain criminalisant l'avortement et l'article 490 pénalisant les relations sexuelles hors mariage restent toujours en vigueur et les tribunaux marocains sont une nouvelle fois, après la lourde condamnation des révoltés du RIF l'an dernier, apparus comme aux ordres du pouvoir. Les outils institutionnels de la répression qui planent sur les voies trop ouvertement critiques ont montré leur efficacité. C'est finalement un geste du monarque, conclut Libé, et non une décision de justice qui rend donc sa liberté à la jeune femme.
À lire aussi dans Le Monde cette page sur Notre-Dame de Paris.
6 mois après l'incendie, le chantier colossal de Notre-Dame de Paris, s'exclame le quotidien du soir. La cathédrale, en effet, n'est toujours pas consolidée et l'échafaudage métallique, en partie tordu par les flammes, n'a pas encore été démonté. Le budget estimé pour l'ensemble de cette phase de consolidation est de 85 millions d'euros. Pour l'instant, Notre-Dame n'est pas totalement sauvée, a prévenu hier le ministre de la Culture, Franck Riester. Les travaux de consolidation devraient encore durer jusqu'au milieu de l'année prochaine. Ensuite, les travaux de reconstruction du toit et de la flèche devraient durer au minimum 5 ans.
D'ailleurs, relate Le Monde, une société ghanéenne s'est portée candidate pour fournir le bois de la future charpente.
Oui, cette société exploite des arbres submergés dans le lac Volta, des arbres extrêmement durs, des centenaires en parfait état de conservation. La charpente de Notre-Dame avait nécessité au XIIe siècle la coupe de quelques 1300 arbres, principalement des chênes. Aujourd'hui, des bois d'une telle maturité et aussi résistants ne sont pas si faciles à trouver en France. Les arbres que nous utilisons, des iroquois, ont des caractéristiques identiques à celles des chênes, avec une densité d'environ 650 kg par mètre cube, explique le dirigeant de cette société de négoce de bois ghanéenne. Alors, des arbres issus du Ghana pour reconstruire la charpente de Notre-Dame à Paris, pourquoi pas ? Pour l'instant, on n'en est pas là.